Yep, we're ready.
Bonjour à tous, bienvenue dans Encore Heureux. Stephen King est un écrivain américain né le 21 septembre 1947 à Portland, dans le Maine. Il est l'un des auteurs les plus vendus dans le monde. Le premier tirage de ses livres est supérieur à 1 million d'exemplaires pour la seule version américaine.
Lorsqu'on me demande quel est le secret de mon succès, question absurde à laquelle il est cependant impossible d'échapper, je réponds qu'il y en a deux. Le fait que j'ai toujours été en bonne santé et le fait que je sois restée mariée. C'est une bonne réponse parce qu'elle vous débarrasse de la question, mais aussi parce qu'elle comporte une part de vérité. La combinaison d'un organisme en bonne santé et d'une relation stable avec une femme autonome qui ne passe aucune connerie et n'en passe à personne est ce qui a rendu possible un travail régulier et continu dans ma vie d'écrivain. Je crois que l'inverse est également vrai, que le fait d'écrire et le plaisir que j'y prends ont contribué à me maintenir en bonne santé et à la stabilité de mon foyer.
Stephen King écrit tous les jours. Il a plus d'une centaine de romans à son actif, plus de 300 nouvelles et près d'un millier d'essais, de chroniques et de notes diverses. La famille King est majoritairement constituée d'auteurs. La femme de Stephen King, Tabitha King, a publié plusieurs livres, tout comme Joey King et Owen King, ses fils. Seule Naomi King n'est pas écrivaine. Elle est prêtre. Consacré roi de l'horreur de la littérature moderne, King s'illustre cependant dans d'autres genres plus ou moins voisins. La science-fiction, avec le roman Running Man, le roman noir sous le pseudonyme de Richard Bachman, le roman feuilleton avec la ligne verte, ou bien encore la fantasy avec le cycle de la tour sombre. Plusieurs de ses ouvrages ont été adaptés au cinéma, comme Shining, par Stanley Kubrick. Considéré comme un auteur populaire, Stephen King a longtemps été méprisé par la critique. Mais il a depuis remporté de nombreux prix, dont le prestigieux National Book Award en 2003. Son style d'écriture est ancré dans le concret, dans la vie de tous les jours. L'écrivain aime y faire surgir le surnaturel et l'horreur. Il aime incarner le mal, là où on l'attend le moins, sous les traits d'une fillette, d'un chien, d'une voiture ou d'une fanatique de romans à l'eau de rose. En 30 ans de carrière, il a revisité tous les standards du genre, vampires, fantômes, loups-garous. Dans la vie réelle, Stephen King rencontre l'horreur très tôt, à l'âge de 4 ans, quand un train écrase un camarade de jeu sous ses yeux. Puis, en écoutant l'adaptation radiophonique d'une nouvelle de Ray Bradbury qui le terrifie. Enfant, en 1954, il est retiré de l'école pendant un an en raison de divers problèmes de santé, ce qui lui laisse beaucoup de temps à la maison, et c'est à cette période qu'il commence à écrire ses premières histoires.
Le médecin glissa l'aiguille dans mon oreille et me creva le tympan. La douleur dépassait tout ce que j'ai pu éprouver depuis. Il y eut un bruit à l'intérieur de ma tête, une sorte de baiser sonore. Un fluide chaud s'écoula de mon oreille, comme si je me mettais à pleurer par le mauvais trou. Dieu sait que je pleurais suffisamment par les bons à ce stade-là. Je me redressai un peu et regardai, incrédule, le docteur des oreilles et l'infirmière du docteur des oreilles. Puis j'examinai le tissu que l'infirmière avait posé sur la partie supérieure de la table. Une grande tache humide s'étalait dessus, zébrée de fins tortillons de pus. « Et voilà !» me dit le médecin en me tapotant l'épaule. « Tu as été très courageux, Stevie. » C'est terminé. Je passais l'essentiel de cette année-là au lit. Je dus bien lire un million de bandes dessinées, passant des aventures de Tom Swift et Dave Dawson aux récits animaliers à vous glacer le sang de Jack London. À un moment donné, je me mis à écrire mes propres histoires. L'imitation précède la création. Je recopiais mot à mot combat casé dans mon cahier Blue Horse, y ajoutant parfois une description personnelle quand elle me paraissait s'imposer. Non sans confondre parfois les mots bouillon avec brouillon, par exemple. Je me rappelle avoir confondu détail et dentale et cru que, parfois, une chienne était une femme de très haute taille. Un fils de chienne avait toutes les chances dans mon esprit de devenir joueur de basket. Lorsqu'on a 6 ans, la plupart de vos lettres de scrap sont encore mélangées dans le sac. Finalement, je montrais l'un de ces plagiat hybrides à ma mère et elle en fut charmée. Je me souviens de son sourire teinté de stupéfaction, comme si elle avait du mal à croire qu'un de ses enfants puisse être aussi intelligent. Un véritable petit prodige en vérité. Jamais je ne lui avais vu cette expression auparavant, en tout cas pas suscitée par moi. J'en étais absolument ravi. Elle me demanda si j'avais inventé cette histoire tout seul, et je fus obligé d'admettre que pour l'essentiel je l'avais trouvée dans un de mes bandes dessinées. Elle parut déçue, ce qui fit s'évaporer une bonne partie de mon plaisir. Finalement, elle me rendit mon cahier. « Écris ta propre histoire, Stevie, me dit-elle. Ces combats casés ne valent rien. Il est toujours en train de faire cracher ses dents à quelqu'un. Je parie que tu peux faire mieux. Invente-en une toi-même. »
Afin d'encourager son fils, Ruth, la mère de Stephen King, lui offre sa première machine à écrire pour Noël. Peu après, en 1960, Stephen découvre une caisse de livres qui appartenait à son père, dans laquelle il trouve une anthologie de nouvelles de Lovecraft. Un an plus tard, en 1961, il expédie pour la première fois une de ses nouvelles, The Killer, à un magazine. Il auto-publie ses premiers récits, vers la même période, à l'aide d'une machine à ronéotyper que son frère utilise pour publier le journal Dave's Rag, le torchon de Dave. King étudie la littérature à l'Université du Maine. Il écrit « Marche ou crève », son premier roman. Il le présente à un concours organisé par Random House, qui le rejette. En 1967, cependant, il réussit à vendre une nouvelle. Un magazine lui achète $25. Son diplôme d'enseignant en anglais en poche, Stephen King emménage dans un appartement avec sa future femme, Tabitha. Mais il n'arrive pas à trouver un poste de professeur. Il doit se résigner à travailler dans une blanchisserie. Il essaye de compléter ses maigres revenus en envoyant des textes à des magazines. Il se marie le 2 janvier 1971. Tabitha est enceinte de leur première fille. La même année, l'écrivain trouve un poste de professeur d'anglais, mais il continue à travailler dans la blanchisserie pendant les vacances d'été, car la situation financière du foyer est devenue très précaire avec la naissance d'un 2e enfant. La famille vit dans une caravane. Durant cette période très difficile où 3 de ses romans sont refusés par les éditeurs, King sombre dans l'alcoolisme. En 72, il a alors 25 ans, il commence à écrire Carrie, l'histoire d'une adolescente souffre-douleur de sa classe qui développe un pouvoir de télékinésie. Mais l'écrivain doute de la qualité de son récit. Il jette les premières pages à la poubelle. Tabitha les retrouve et après les avoir lues, encourage son mari à persévérer. King termine donc Carrie et expédie le manuscrit à la maison d'édition Doubleday. L'éditeur accepte le roman en mars 1973 et fait signer à l'auteur un contrat type qui l'engage pour 5 romans. La famille King déménage et Stephen commence à écrire un nouveau roman, Salem, quand Doubleday informe que les droits en édition de poche de Carrie ont été vendus pour $400 000, somme dont la moitié lui revient. Stephen King décide alors d'arrêter sa carrière d'enseignant et il va se consacrer uniquement à l'écriture. Il publiera à un rythme effréné environ 3 textes par an. Mais les choses vont radicalement changer en 1999. Stephen King est victime d'un grave accident alors qu'il marche tranquillement sur le bord de la route. Encore heureux, portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B.
Le 19 juin, je ramenais notre plus jeune fils en voiture de l'aéroport de Portland, où il prit un vol pour New York. Je revins à la maison, puis après une courte sieste, partis faire ma promenade quotidienne. Nous avions prévu ce soir-là d'aller en famille voir la fille du général dans un cinéma de la ville proche de North Conway, mais je pensais avoir le temps de parcourir mes 6 kilomètres avant d'embarquer tout le monde. Je me mis en route vers 4 heures de l'après-midi, pour autant que je m'en souvienne. Juste avant d'atteindre la route principale, j'allais dans le bois et urinais. Ce n'est que 2 mois plus tard que je pus de nouveau pisser debout. Arrivé sur la grande route, je tournais en direction du nord, marchant sur le bas-côté en gravier, face à la circulation. Une voiture me dépassa, allant aussi vers le nord. À environ 1 kilomètre de là, la femme qui était au volant croisa un van Dodge bleu clair qui zigzaguait de droite à gauche sur la route, comme si son chauffeur avait le plus grand mal à le contrôler. La femme se tourna vers son passager. Une fois le danger passé, elle lui dit « C'était Stephen King, le promeneur qu'on a vu. J'espère que le type du van ne va pas l'écraser. » La visibilité est dans l'ensemble bonne sur le 1,5 kilomètre sur la route 5 que j'emprunte. Mais il y a un moment donné, un court raidillon, d'où un piéton marchant vers le nord n'a qu'une vue limitée de ce qui peut venir vers lui. J'étais aux 3/4 de ce raidillon lorsque Brian Smith, propriétaire et conducteur du van Dodge, se présenta au sommet. Pas sur la route, sur le bas-côté. Mon bas-côté. J'avais à peu près 3/4 de seconde pour réagir. Juste le temps de penser « Mon Dieu, je vais me faire écraser par un bus scolaire ». J'esquissai un mouvement vers la gauche. Là, j'ai un trou de mémoire. De l'autre bord de ce trou, je suis allongé par terre et regarde l'arrière du van qui a quitté la route et est incliné d'un côté. Cette image est très claire, très précise, davantage un instantané qu'un souvenir. Il y a de la poussière sur les feux arrière. La plaque minéralogique et les vitres arrière sont sales. J'enregistre ces détails sans penser que je viens d'avoir un accident ni à quoi que ce soit d'autre. C'est un instantané. Rien de plus. Je ne pense pas. Ma tête a été balayée, vidée. J'ai à cet instant-là un autre blanc. Puis j'essuie à pleine paume de la main gauche le sang que j'ai dans les yeux. Quand j'y vois à peu près clair, je regarde autour de moi et aperçois non loin un homme assis sur un rocher. Il tient une canne en travers des genoux. Il s'agit de Brian Smith, 42 ans, l'homme qui vient de me renverser avec son van.
Stephen King reste hospitalisé 3 semaines. Il rachète la camionnette de Smith et la détruit pour éviter qu'elle ne puisse être revendue aux enchères par des fans indélicats. Malgré son état de santé fragile, il poursuit l'écriture du livre qu'il avait commencé avant l'accident. Écriture, mémoire d'un métier. Ce livre est à la fois un essai sur l'art d'écrire, une véritable bible pour tout aspirant écrivain, et une autobiographie. Il est publié en octobre 2000. Conseil sur l'art d'écrire par Stephen King. De mon point de vue, un roman, une histoire, comporte 3 éléments. La narration, qui fait avancer le récit du point A au point B et finalement jusqu'au point Z. La description, chargée de créer une réalité sensorielle pour le lecteur. Et les dialogues, qui donnent vie aux personnages à travers leurs échanges verbaux. Vous vous demandez peut-être où je mets l'intrigue dans tout ça. La réponse, la mienne en tout cas, est nulle part. Je n'essaierai pas de vous convaincre que je n'ai jamais bâti d'intrigue, pas plus que je n'essaierai de vous convaincre que je n'ai jamais menti, mais j'évite le plus possible de faire l'un comme l'autre. Je me méfie des intrigues, pour 2 raisons. D'abord parce que nos vies en sont essentiellement dépourvues, en dépit de toutes les précautions raisonnables que nous pouvons prendre, de la minutie avec laquelle nous dressons nos plans. Ensuite, parce que je considère qu'il y a incompatibilité entre la construction d'une intrigue et la spontanéité de la véritable création. C'est un point sur lequel je dois être claire. Je désire que vous compreniez que ma conviction la plus profonde quant à l'invention des histoires est qu'elles se fabriquent en grande partie d'elles-mêmes. Le boulot de l'écrivain consiste à leur donner un lieu où s'épanouir et à les transcrire, bien entendu. Si vous parvenez à voir les choses ainsi, ou au moins si vous essayez, nous allons pouvoir collaborer sans peine. Si par ailleurs, vous concluez que je suis cinglé, pas de problème, vous ne serez pas le premier. Lorsqu'au cours d'une intervention pour The New Yorker, j'ai déclaré aux journalistes que j'étais convaincue que les histoires étaient des objets trouvés, comme les fossiles dans le sol, il m'a répondu qu'il ne me croyait pas. « Pas de problème, lui ai-je dit, tant que vous croyez au moins que moi je le crois. » Ce qui est le cas. Les histoires ne sont pas des t-shirts souvenirs ou des jeux électroniques. Ce sont des reliques, issues d'un monde préexistant, encore inconnu. Le travail de l'écrivain consiste à utiliser les outils de sa boîte à outils pour les extraire du sol aussi intégralement que possible, en les laissant aussi intacts que possible. Parfois le fossile est petit, un simple coquillage. Parfois il est énorme, un Tyrannosaurus rex, avec sa gigantesque cage thoracique et son sourire plein de dents. Dans un cas comme dans l'autre, qu'il s'agisse d'une nouvelle ou d'un roman fleuve de 1000 pages, les techniques d'excavation demeurent, pour l'essentiel, les mêmes. Encore heureux, portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B. Prenons la phrase « Il referma brutalement la porte ». Phrase qui n'a rien de terrible, mais demandons-nous si « brutalement » a bien sa place ici. On peut faire remarquer qu'il exprime une différence de degré entre « il referma la porte » et « il claqua la porte ». Je veux bien, mais... Et le contexte? Que faites-vous de toute la prose qui précède et éclaire les choses avant qu'on en soit arrivé à « il referma brutalement la porte » Ne devrait-on pas déjà savoir quand notre héros va refermer la porte? Si ce qui précède nous éclaire, brutalement, n'est-il pas de trop? N'est-il pas redondant? J'ai quelqu'un dans mon dos qui m'accuse d'être assommant et de faire de la rétention anale. Que nenni, j'estime que la route menant en enfer est pavée d'adverbes et je le crierai sur les toits. Pour le dire autrement, les adverbes sont comme les pissenlits. Un seul et unique sur votre pelouse, c'est ravissant. Oubliez de l'arracher, et quelques jours plus tard, vous en aurez 5, puis 50 le lendemain. Et mes chers frères et sœurs, votre pelouse sera recouverte totalement, complètement et superlativement de pissenlit. Et lorsque vous comprendrez que ce sont des mauvaises herbes, aïe, il sera trop tard.
Abordons à présent la question des dialogues, la partie audio de notre programme. Comme dans tous les autres aspects de la fiction, le secret des bons dialogues réside dans l'honnêteté. Si vous êtes honnête, quant aux mots que vous faites sortir de la bouche de vos personnages, vous découvrirez que vous vous exposez aussi à pas mal de critiques. Pas une semaine ne passe sans que je reçoive au moins une lettre furibarde m'accusant d'être grossier, homophobe, assassin, frivole ou carrément psychotique. Dans la plupart des cas, ce qui a échauffé la bile de mes correspondants figure quelque part dans un dialogue. « Tirons-nous de ce putain de bled !» Ou bien « Où tu te crois, sale con de pédé ?» Ma mère, Dieu l'ait en sa sainte garde, n'approuvait pas les jurons et ce genre de langage. Pour elle, c'était celui des ignorants. Mais cela ne l'empêchait pas de s'écrier « Oh merde !» quand son rôti brûlait, ou si elle se donnait un coup de marteau sur le pouce en plantant un crochet à tableau dans le mur. D'ailleurs, personne, qu'on soit bon chrétien ou franc païen, ne se retient de lancer quelque chose de similaire, sinon pire, quand le chien dégobille sur la moquette ou lorsque le cri clash sous la voiture. Il est important de dire la vérité. La Legion of Decency n'aime peut-être pas le terme « merde », ou si ça se trouve, vous ne l'aimez pas non plus, mais par moments, Il n'y en a pas d'autre. Jamais un gamin n'a couru jusqu'à sa mère pour lui rapporter que sa petite sœur avait déféqué dans la baignoire.
Dans la même veine, l'un des mauvais coups que vous pouvez porter au texte que vous écrivez serait de châtier le vocabulaire en cherchant à y introduire des mots longs ou rares, parce que vous auriez honte des mots petits et courants que vous employez. Autant habiller votre chien ou votre chat en tenue de soirée. La pauvre bête se sentira mal à l'aise. Et l'auteur de cet acte de mignardise préméditée, bien embarrassé. Faites-vous, dès à présent, la promesse solennelle de ne jamais écrire émolument à la place de paye, ou encore John prit le temps d'aller à la selle alors que vous vouliez dire John prit le temps d'aller chier. Si vous estimez que aller chier sera considéré comme choquant ou inapproprié par vos lecteurs, en revanche, sentez-vous libre d'écrire John prit le temps d'aller soulager ses intestins. Ou, si le contexte est clair, d'aller se soulager. N'oubliez jamais que la première règle est d'utiliser le premier mot qui vous vient à l'esprit, s'il est approprié et expressif. Si vous hésitez et vous mettez à cogiter, vous finirez par trouver un autre mot, il y en a toujours un, mais il ne sera sans doute pas aussi bon que le premier.
Il était une fois un pays merveilleux où tous les habitants étaient des gens heureux. Ils avaient découvert qu'avec de simples mots, comme par magie d'un coup, tout devenait plus beau. Plus de nains, pas d'aveugles, rien que des non-voyants, des gens de petite taille et des malentendants. Et sitôt qu'un obèse approchait le quintal, on usait d'allusions au surplus pondéral. Plus chômeur, le vocable est très laid, mais demandeur d'emploi, l'euphémisme plaisait. Plus de rouge, plus de jaune, plus de noir qui font peur, on louait en revanche les personnes de couleur. Tout l'art de ne pas dire en sachant l'évoquer, escamote le concierge, contourne le handicapé. Technicien de surface, mobilité réduite, jamais prononcé, mais toute la chose est dite. Appeler un chat, ba-ba-ba-ba-ba. Non mais oh ça va pas, mais vous n'y pensez pas. Non mais oh n'importe quoi, un chat ba, 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 ba. Comment nommer alors le garçon constipé? Je propose un pudique terminal obstrué. Et pour le dégoûtant qui nous largue une caisse, j'ai volé si géré, confectionnaire de veste. Aïe. Si le doigt du docteur le limite au rectal, sa moustache l'anoblit en poilu subnasal. Des mots tout en tabou, soucieux du contentieux, tournent autour du pot sur la pointe des œufs. Appeler un chat, ba 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 ba. Non mais oh ça va pas, mais vous n'y pensez pas. Non mais oh n'importe quoi, un chat ba, 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 ba. Mais vous n'y pensez pas. Appelez un chat, dès lors nous le savons. Stigmatise le félin, il n'en est pas question. Pour aller droit au but, essentiel Malek. Soyons pour vivre mieux. Poli, poli, politiquement correct. Appelez un chat, ba 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 ba. Non mais oh ça va pas, mais vous n'y pensez pas. Non mais oh n'importe quoi, un chat, ba, 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 ba. Mais vous n'y pensez pas.
Je me pose les grandes questions. La plus grande bien sûr est Mon histoire tient-elle debout? Et si oui, comment faire de cette cohérence un chant? Quels sont les éléments récurrents? S'en te croise-t-il pour constituer un thème? En d'autres termes, je me demande, où veux-tu en venir, Stevie? Est-ce que je peux faire pour rendre ces préoccupations plus perceptibles? Ce que je recherche le plus est ce que j'appelle la résonance, quelque chose dont l'écho se répercutera encore un peu de temps dans l'esprit et dans le cœur du fidèle lecteur lorsqu'il aura refermé le livre et l'aura rangé sur une étagère. Je cherche des manières d'y parvenir sans gaver le lecteur ni vendre mon droit d'aînesse pour une intrigue ou un message. Prenez tous ces messages, toutes ces leçons de morale et collez-vous-les là où le soleil ne brille jamais, d'accord ? Je veux de la résonance. Plus que tout, je recherche ce que j'ai voulu dire, le sens. Parce que dans la deuxième mouture, je vais vouloir ajouter des scènes et des incidents qui renforcent le sens. Je vais vouloir aussi faire disparaître les choses qui vont dans d'autres directions. Il faut remettre de l'ordre dans tout ce bazar, si je veux obtenir quelque chose qui produise un effet unifié. Lorsque j'en ai fini de ma relecture et de toutes mes petites révisions, il est alors temps d'ouvrir la porte et de montrer ce que j'ai écrit aux 4 ou 5 amis proches qui se sont portés volontaires pour y jeter un coup d'œil.
Le dernier roman de Stephen King, The Outsider, sortira en février chez Albin Michel. Parions qu'il aura trouvé le chemin de la résonance. Chers auditeurs, merci. Je vous rappelle que tous les portraits de Encore Heureux sont disponibles en podcast sur le site de Radio B. Merci Annie qui était à la réplique. Merci Pauline à la technique. La prochaine émission sera consacrée à Marguerite Yourcenar. Plein de bonheur et de bonnes ondes pour la nouvelle année, à l'écoute, bien sûr, de Radio B. À très bientôt.